C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons pour la seconde fois cette saison le jeune et brillant pianiste canadien Glenn Gould.
Nouveau Chemin vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Glenn Gould ne joue pas au piano du bout des doigts, mais de toute son âme. On pourrait même dire qu'il ne joue pas du piano, mais de son esprit. Lui qui ne cesse de répéter que son instrument n'est pas pour lui une fin en soi, mais un moyen, une voie d'accès. Toute la question est de savoir à quoi le piano lui donne accès et à quoi il nous conduit. En d'autres termes, que se passe-t-il quand Gould se met à jouer du piano? Et que se passe-t-il quand nous l'écoutons? Le philosophe André Hirt vient aujourd'hui réfléchir pour vous à ce cas Gould, ce qu'il nomme un événement et que nous allons aujourd'hui essayer de comprendre. Bonjour à vous André Hirt.
Bonjour Adèle Van Brett. Comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer quant au concert. Mais nous sommes face à une situation curieuse et elle mérite quelques explications. Vous allez entendre une interprétation quelque peu hétérodoxe de ce concerto de Brahms, performance très inhabituelle que je n'ai jamais pu imaginer ou rêver moi-même, étant donné l'ampleur des tempos et le fait que les indications dynamiques de Brahms sont peu respectées. Je ne suis pas en plein accord avec la conception que s'en fait M. Gould. Et cela pose une question intéressante. Qu'est-ce que je fais ici en tant que chef d'orchestre? Je suis chef d'orchestre parce que M. Gould est un artiste si légitime et si sérieux que je dois prendre au sérieux, justement, toute conception qu'il se fait de bonne foi de sa musique. Et sa conception est suffisamment intéressante pour que je me sente obligé de vous la faire partager à vous aussi. Mais il se pose néanmoins cette question sempiternelle. Dans un concerto, qui est le patron? Le soliste ou le chef d'orchestre? La réponse, c'est parfois l'un, parfois l'autre, selon les personnalités dont il est question. Mais les deux arrivent à s'accorder, la plupart du temps, par la persuasion, par le charme, ou parfois sous la menace. Il faut en effet arriver à une performance unifiée. Une seule fois dans ma vie, j'ai eu à me soumettre à un soliste nouveau dont la conception était incompatible. C'était la dernière fois que j'ai rencontré M. Gould.
André Hirt, vous êtes professeur de philosophie en Cagne au lycée Féderbe de Lille. Vous avez publié avec Philippe Choulet un ouvrage consacré à Glenn Gould intitulé « L'idiot musical, Glenn Gould, contrepoint à existence » aux éditions Quimet. Tout récemment, toujours aux éditions Quimet, vous avez publié « Staccato, musique, existence, philosophie » au pluriel, et c'est exactement le sujet de l'émission qui nous attend. « Who is the boss ?» C'est la question que pose Leonard Bernstein au public venu l'écouter diriger le concerto en ré mineur de Brahms avec au piano Glenn Gould que nous sommes en train d'écouter. Et la question se pose lorsqu'on a affaire à un individu autant interprète que créateur qui semble vouloir tout mener selon son désir. Difficile pour lui de se plier à celui d'un chef d'orchestre.
Oui, mais en même temps, je ne crois pas que Gould veuille être, de quelque manière que ce soit, un boss, un chef. C'est pas du tout dans son tempérament. Qu'il soit une personnalité singulière, ça Bernstein l'a parfaitement relevé dans son intervention très remplie d'humour.
C'était le 6 avril 1962, pardon, oui. Carnegie Hall de New York.
Oui, alors, et en plus, à propos d'un répertoire qui est le grand répertoire romantique, qui est pas du tout, au principe, le répertoire de Gould. Mais là, on voit bien chez Gould le personnage de l'idiot musical.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire?
Idiot, ça veut pas du tout dire ce qu'on entend par là couramment, ce que le mot est devenu en français. Idiot, donc idios en grec, c'est le particulier, le singulier, celui qui est à part, celui qui a quelque chose d'original, c'est l'original, ou quelque chose de cet ordre. Ou encore, de façon plus oratique, c'est l'idiot de Dostoïevski,
voilà.
C'est-à-dire celui qui est traversé par une espèce de mission, de sens sacré, christique, là en l'occurrence pour le personnage de Dostoïevski. Mais s'agissant de Gould, effectivement, Bernstein fait remarquer qu'il a une perception de l'œuvre tout à fait singulière, qui ne cherche pas à imposer sa vue, sa manière de voir. C'est pas du tout l'idée de Gould. Ce que Gould cherche à faire voir, hein, si on peut utiliser cette expression, cette métaphore un peu visuelle, c'est le contenu même de l'œuvre. Il cherche à ouvrir une œuvre que tout le monde connaît, plus ou moins par cœur, enfin
dans la salle en tout cas.
Dans la salle, et il essaye de dépoussiérer, plutôt, je dirais pas ce mot. Ce que je dirais, c'est qu'il voudrait supprimer toutes les apparences qui ont revêtu cette œuvre, ces apparences qui sont la tradition. Et il reprend l'œuvre, non pas à zéro, parce qu'il y a bien sûr toute une tradition d'interprétation, mais il essaye de prendre l'œuvre pour essayer de voir tout simplement ce qu'elle contient, et en notant toute la perception qu'on a déjà, tous les présupposés, tous les préjugés qu'on a déjà de l'œuvre. Ce qu'il fait par exemple avec les sonates de Mozart, hein, qui ont été si
contestées, n'est-ce pas,
contestées, parce qu'il les a complètement
certains diraient
massacrées, mais également pour certaines révélées. Je crois qu'il
vous les sauvez.
Qui montre un certain nombre de choses. Alors c'est d'autant plus émouvant là cette petite présentation de Bernstein, c'est que Bernstein, on a deux personnages, deux très très grands personnages. Enfin, l'un qui est un homme total. Bernstein, c'est-à-dire beau, séduisant, compositeur, très grand chef d'orchestre, très grand vivant, un grand homme de communication. De l'autre, on a aussi un grand communicant, Gould, mais solitaire, pas franchement un grand vivant au sens où on l'entend, c'est-à-dire quelqu'un qui serait dans la société, comme ça, plutôt dans le retrait, dans la soustraction, mais ils s'entendent manifestement comme des larrons en foire. C'est pas le seul enregistrement qu'ils font ensemble. Et ce sont deux grands personnages, deux très grands hommes. Je crois qu'on peut les dire, c'est-à-dire des incarnations de l'humanité, c'est-à-dire dans la perfection humaine, artistique, même si c'est dans des directions tout à fait opposées chez Bernstein d'un côté, qui est quand même un personnage à la fois du désir et dans les derniers enregistrements de la tragédie, enfin les derniers enregistrements de Mahler, par exemple, qui sont extrêmement tragiques, et Gould, qui lui est plutôt du côté de la sérénité, ou du moins de sa recherche, une espèce d'ascétisme, mais d'un ascétisme qui n'est pas triste. Voilà, donc il y a cette rencontre de ces deux monstres sacrés, qui pour moi sont importants, parce que ils sont pas importants musicalement, parce que je suis pas musicologue, mais ce sont des ce sont des éducateurs à leur manière. Ce sont tous les deux des hommes qui nous montrent ce que c'est que l'existence, ce que c'est que la beauté, comment on doit conduire sa vie.
Se passe quelque chose là, lors de cette rencontre, notamment. Oui. A fortiori, lors de ce concert, nous avons évoqué lundi dernier l'importance des enregistrements pour Gould, qui va prendre la décision de se retirer des salles de concert pour ne plus qu'enregistrer, ce qui témoigne d'une conception de l'auditeur comme créateur, qui peut de l'autre côté de son poste lui-même choisir ce qu'il écoute ou pas. Ici, nous sommes dans un concert, c'est un événement, il va se passer quelque chose qui n'a pas eu lieu avant, qu'il ne se passera pas ensuite. Comment est-ce que vous interprétez ça, ce qui arrive à la musique à ce moment-là? Moment de l'interprétation sur scène.
Je crois que d'abord nous sommes dans un cas de figure gouldien singulier, ce qui est un concert, un live. Mmh. Et en principe, un enregistrement public de concert, on estime toujours que la musique s'y montre dans son authenticité, dans sa plénitude, alors que l'enregistrement est toujours, c'est le reproche qu'on a fait à Gould, trafiqué, et ainsi de suite. Alors, il se trouve quand même qu'on a de très beaux témoignages de Gould en concert, y compris celui-ci. Alors, ce qui se passe, c'est, je crois précisément que Gould a pu, sur cette partition si ample, enfin si colossale du répertoire romantique, montrer quelque chose de l'œuvre qu'on n'a jamais entendu comme ça, par le tempo, je pense surtout au mouvement lent qui est extrêmement étalé, objectivé, spatialisé. Et donc on a là un enregistrement unique qu'un autre interprète ne peut pas reproduire de cette manière, mais quelque chose de l'œuvre est amené à la manifestation. Hein? Et ça, c'est l'idée de Gould. Gould n'a rien contre le concert sur le plan musical. Il a quelque chose contre le concert sur le plan moral. C'est-à-dire il se passe quelque chose au concert qui moralement, on pourra peut-être y revenir, et pour lui inacceptable, mais il n'a rien du tout contre le concert sur le plan esthétique, sur le plan de l'art. Et donc, je crois que ce qui guide Gould, c'est est-ce que quelque chose va ou non se manifester dans l'exécution de l'œuvre, que ça soit en public ou que ça soit à l'occasion d'un enregistrement.
Et ce quelque chose, qu'est-ce que
alors,
c'est une
ce quelque
de,
chose, alors là, il faudrait...
De l'attendu, d'un événement, une surprise.
Oui, je crois qu'il y a... c'est qu'on touche... Alors, chez lui, il y a toujours le fait de toucher au contenu de l'œuvre, à quelque chose qu'il appelle, au fond, l'extase, l'absolu, c'est-à-dire le moment où l'œuvre touche à sa cohérence, c'est-à-dire où son noyau centrale se révèle. D'ailleurs, il y a là, vous savez, c'est très très étrange, il y a une antithèse gouldienne qui est un autre grand chef d'orchestre qui s'appelle Sergiu Celibidache, alors qui lui refusait les enregistrements et n'avait n'avait accordé son crédit qu'aux enregistrements, qu'aux performances live. Et malgré tout, Celibidache et Gould ont quelque chose en commun, c'est précisément l'idée que tant qu'on n'a pas l'idée, c'est-à-dire la structure quasiment platonicienne de l'œuvre, on ne peut pas la jouer. Ou bien l'idée, c'est ce qu'on cherche quand on entreprend une exécution, ou bien encore l'idée, c'est ce qu'on cherche dans la multiplicité des prises lors d'un enregistrement.
Pour moi, le concert public est quelque chose de cruel, de féroce et d'idiot. C'est exactement ce qui pousse des sauvages comme ces gens d'Amérique latine à aller voir les corridas. Lorsque j'entends ce genre d'argument, ça me donne envie de quitter la scène. Le spectateur de l'arène qui regarde une exécution musicale comme s'il s'agissait d'une performance athlétique se tient lui-même à l'abri du danger, mais il a une sorte de jouissance sadique à voir ce qui se passe sur scène. Or tout cela n'a rien à voir avec ce qui s'y passe réellement, qui est une tentative faite par l'interprète d'aboutir à une puissante identification avec la musique qu'il joue. Il ne s'agit pas d'un match, mais d'une histoire d'amour. Bien sûr, il peut toujours arriver que quelque chose d'exceptionnellement beau se passe au cours d'un concert. Et dans cette hypothèse, j'aimerais qu'il y ait 20 000 personnes dans la salle tant qu'à faire, plutôt que 2 000. Mais ces moments sont rares. J'adore l'enregistrement, parce que si quelque chose d'exceptionnellement beau survient, on sait que ça va rester. Et que, si ce n'est pas le cas, eh bien on vous donne une autre chance de parvenir à l'idéal. On entend presque toujours Gould fredonner avant de jouer André Hirt, comme s'il récapitulait par la voix ce qu'il s'apprêtait à jouer. Est-ce que c'est pas une manière pour lui d'atteindre ce qu'il nomme l'idéal dans le texte que j'ai lu, hein, qu'on retrouve dans le recueil « Non, je ne suis pas du tout un excentrique », un recueil de textes de Gould rassemblés par Bruno Mont-Saint-Jean, où il dit bien, voilà, le but quand même, c'est de parvenir à l'idéal. Chantonner, c'est une manière de se représenter l'idéal avant de l'interpréter ? On peut le comprendre comme ça ?
Oui, je crois qu'on doit l'entendre comme ça. On peut préciser d'ailleurs la chose. Je crois que d'abord, il faut préciser quelque chose. C'est pas simplement chez lui un tic. Ou un toc, enfin, ça dépend comment on l'entend, ou quelque chose de qui serait régressif, hein, toujours bon, le rapport à l'origine, le rapport peut-être à la mère ou quelque chose de cet ordre. Non, je crois que d'abord il y a quelque chose de très rationnel derrière cela, qui est ce que Arthur Schnabel, un grand pianiste, lui avait appris d'une certaine manière par les disques, et ainsi de suite, à savoir l'idée, c'est-à-dire que l'exécution doit avoir en ligne de mire ou ligne d'horizon une idée, hein, quelque chose à quoi il s'agit de parvenir et qu'il faut en quelque façon réaliser. Et il y a derrière cela aussi une dimension de laquelle Gould ne parle pas vraiment, enfin pas à ma connaissance, qui est une dimension hymnique, l'hymne, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'adresser, d'invoquer, une espèce d'incantation, d'appel à l'œuvre, hein, d'appel de l'œuvre, qu'elle vienne, enfin qu'il y ait une espèce de venue, hein, que l'œuvre soit le cas, enfin qu'elle arrive. Il y a l'extase ou la jouissance, hein, qui est littéralement appelée chez lui. Une dimension, bien sûr, qui n'est jamais chez Gould sexuelle, ouvertement sexuelle, mais qui est quand même présente, parce qu'elle a une présence physique, enfin charnelle. Il y a le corps qui est absolument présent dans cette aventure. Et je crois que ce chantonnement, qui d'ailleurs moi personnellement ne me dérange pas, qui a fait le malheur de tous les ingénieurs du son, mais qui est une espèce d'invocation de la musique avant même qu'elle ait lieu, et que je crois que la musique touche à sa vérité ou à sa beauté, comme il disait là dans le texte, lorsque la musique correspond au chantonnement. C'est-à-dire, l'idéal, c'est quand le chantonnement correspond à la musique.
Comme une forme. Donc l'idéal, c'est en fait la coïncidence entre l'esprit et le monde.
Voilà, c'est ça, oui. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de cela qui se passe. En tout cas, la dimension d'incantation est absolument omniprésente, enfin, je crois.
Ce qui donne une dimension quasiment mystique, pour le coup.
Ah oui, je crois. Même si on a du mal, vous voyez, à parler de Gould en ces termes, qui ne sont pas les siens.
Ouais.
Par exemple, il parle très peu il ne parle pas de sexualité, il parle très peu de religion. Alors que, bon, je pense qu'elle était présente dans son éducation, enfin, d'une certaine manière, je n'en sais rien. Mais il lui arrive de parler de l'hymne. Quand même, il lui arrive de parler de l'hymne et que il y a cette espèce de grandeur et d'offrande, hein, qui est présente dans l'œuvre, et on voit bien dans les enregistrements vidéo la façon dont le visage même de Gould s'éclaire à certains moments parce qu'il y a cette rencontre, il y a cette jouissance, comme quand on a touché juste, enfin comme quelque chose qui
met le doigt sur le rapport entre soi et le monde.
Quand la musique réussit. Parce que dans le texte que vous avez lu, il dit bien, ça arrive qu'un concert réussisse. C'est rare, dit-il, mais enfin, ça arrive. Ça arrive plus souvent dans les studios d'enregistrement, et en plus, ça peut se garder. Bon. Mais on pourrait rajouter, parce qu'il y a d'autres textes de Gould qui disent, oui, mais bon, il n'y a jamais d'enregistrement terminal. Il faut recommencer les enregistrements. Et donc, il faut remettre ça sur le métier. C'est-à-dire qu'on l'enregistrement lui-même relance encore l'œuvre et la reformulation, le nouvel appel de l'œuvre, la réinvocation.
Vous parliez de jouissance, et c'est vrai peut-être qu'au fond, le désir de Gould de recommencer à enregistrer pour atteindre une forme d'idéal, c'était pas tellement peut-être un souci de perfection qu'un désir de pouvoir jouir encore davantage. C'est-à-dire oui. qu'il y a un bonheur, il y a une joie chez lui.
Ah voilà, c'est une joie chez lui. Alors il y a, bien sûr, on a une représentation de lui qui est une représentation d'un ascète, d'un individu qui est bourré de médicaments, hypochondriaque, ce qu'il était.
Ce qui est vrai aussi. Hein.
Ce qu'il était, indéniablement. Mais je ne sais pas si on dispose d'enregistrements vidéo où on le voit triste ou accablé. On peut le voir méditatif, on peut le voir réfléchissant, on peut le voir peut-être immobile, mais il y a beaucoup d'enregistrements où on le voit rire, où on le voit en grand communicant, voire délirant parfois, parce que c'est amusant.
Voilà. Et on voit ça dans ses textes. Il y a beaucoup de textes où on se rend compte qu'il a un sens de l'humour qu'on ne soupçonnait pas.
Oui, et puis il y a derrière une théorie de la joie, parce que la joie, c'est aussi ça, la rencontre du chantonnement et de l'idéal. Parce que c'est le moment même de la joie, et il y a une espèce d'extase, enfin il y a un cri.
Alors écoutons cette extase, que nous en parlons, mais écoutons Gould au piano, interprété. Non pas Bach, que nous avons entendu avant et qui est beaucoup associé à Gould, et pour cause, hein, il a proposé une interprétation très personnelle des partitions de Bach. Ici, c'est Beethoven, la sonate numéro 31, opus 110. Écoutez. Personne ne joue ça comme ça. Vous êtes en train de me dire, André Hirt, dans le micro, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette interprétation de Beethoven
Parce qu'il y a une musique en lévitation. Il y a une musique en suspension. Il y a un moment d'extase absolue. Enfin, c'est une spatialisation de la musique. Enfin, c'est-à-dire la façon dont la musique devient, pour Gould lui-même, complètement représentée. Elle fait monde à ce moment-là.
Alors la chance que nous avons, c'est que nous avons accès à des vidéos de Gould et nous le voyons en train de jouer, de l'interpréter au piano. Et c'est vrai que son visage n'est pas du tout celui crispé qu'on lui prête souvent. Il y a une forme de sérénité, c'est vrai, quasi extatique lorsqu'on le voit interpréter cette sonate. Alors là, elle dure presque 11 minutes, on ne pourra pas l'entendre en entier. Mais elle est composée de différents mouvements. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez en début d'émission, André Hirt, qui me semble avoir un lien avec cette sonate-là en particulier. Vous disiez, Gould, comme Bernstein, sont des formes d'éducateurs, comme si l'œuvre était indissociable de l'existence, que l'écoute même de cette sonate interprétée par Gould façonnait notre existence, notre manière de vivre. Vous iriez aussi loin ?
Oui. Je suis obligé de philosopher un tout petit peu sur cette
affaire. On vous a invité
pour
ça.
Mais bon, les philosophes me comprendront. Je ne sais pas, ceux qui ont un tout petit peu lu Kant, par exemple. Quand on trouve que quelque chose est beau, s'opère en nous une espèce d'unité de la subjectivité. C'est-à-dire la subjectivité se rassemble. Et qui nous dit, qui nous fait dire je trouve ça beau. Enfin, il y a une espèce de sentiment subjectif, d'harmonie subjective qui se crée. Donc quelque chose en nous est touché. C'est-à-dire quelque chose en nous se noue dans une unité, fait un, et qui fait que nous nous reconnaissons en quelque façon nous-mêmes et que nous nous reconnaissons également dans ce que nous trouvons beau. Eh bien, ce qui m'est arrivé par exemple avec Gould, c'est que, par exemple, sur ce mouvement lent de la 31e sonate, on se dit, oui, c'est ça, ça c'est moi, ça je me reconnais là-dedans, ça je trouve ça beau. Que donc il y a cette éducation qui est donnée sur, au fond, quelque chose qui est de l'ordre de l'exactitude, de la beauté, de la subjectivité, ce dans quoi on se reconnaît, on se dit qu'on est fait pour ça, qu'on veut ça, qu'on désire ça, qu'on veut que ça... Ça se répète. Alors, il se trouve que personnellement, je suis philosophe, mais en fait, ce ne sont pas les philosophes qui m'ont éduqué d'une manière. C'est Bernstein, et c'est Glenn Gould par exemple cette version dont il existe encore une version supérieure qui est celle d'un enregistrement public à Stockholm en 58 et qui bon, c'est pas le seul morceau, mais enfin qui produit enfin cet effet de fascination, enfin, où on se dit que là, on a un modèle d'existence, enfin, qu'on ne peut pas concevoir l'existence sans ça. Parce que s'il y a une idée de Gould, tout comme il y a une idée de Bernstein, mais chez Gould, c'est encore plus fort, c'est que la musique doit transformer notre vie. Qu'il y a quelque chose dans la musique qui transforme notre vie, qui d'une certaine manière aussi la sauve, parce qu'il y a chez Gould l'idée que... le monde lui-même est cruel, que le monde lui-même est violent, et le concert n'est rien d'autre que la traduction de cette violence, enfin, de ce match, de la concurrence. Il est très peu américain, à cet égard. Pas de compétition, il veut pas de compétition.
Il déteste la compétition.
Il veut la paix, il veut la sérénité. Bon. Et que, au contraire, il y a cette idée que la musique est une thérapie qui nous guérit de la nature. De cette nature violente, et que cette thérapie, elle porte un nom chez lui, elle s'appelle musique, mais elle s'appelle aussi technique. Hein, il y a chez lui la charité de la technique, c'est une de ses expressions, et que des gens comme Bernstein sur le désir de vivre, sur l'enthousiasme, sur la vie totale, sur et Gould d'un autre côté sur la ligne, sur l'éthique, sur la morale, sur ne pas céder sur son désir, hein, comme dirait
Lacan.
Comme dirait Lacan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de Gould simplement un personnage pathologique. C'est quelqu'un qui n'a jamais cédé là-dessus, sur son propre désir. De même que Bernstein non plus, mais dans un autre ordre. Donc d'un côté plus hédoniste et tragique, plus donjuanesque peut-être chez Bernstein, et chez Gould sur un modèle beaucoup plus serein, beaucoup plus solitaire, beaucoup plus ascétique, diraient certains.
Guérir de la nature humaine par la nature autour de nous, justement, là où Gould va se recueillir et jouer dans un chalet au bord d'un lac. Écoutez-le en parler, il en fait le modèle même du Nord.
Je m'appelle Glenn Gould et ce programme est intitulé « Une idée du Nord ». J'ai toujours été intrigué par cette tapisserie incroyable de toundra et de taïga qui constitue la zone arctique et subarctique du Canada. Je l'ai étudié, j'ai écrit dessus et puis un jour j'ai même mis une parka pour aller visiter cet endroit. Mais... comme de nombreux Canadiens, je n'ai jamais été véritablement confronté au tiers septentrional du Canada. Le Nord, pour moi, c'est un lieu de rêve, mais c'est également un lieu que l'on finit par éviter. Dans ce programme, il y aura des personnages qui ont eu une expérience de vie directe du Nord. Pour eux, le Nord joue un rôle vital. Le non-conformiste peut trouver refuge dans le Nord. C'est un lieu parfait pour le non-conformiste. Il s'agit de personnes assez étranges qui attirent l'attention, évidemment, et ce sont des gens qui ne sont pas dénués d'intérêt.
Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance et le petit prélude numéro 1 en ut majeur de Bach interprété par Glenn Gould. Glenn Gould dont il s'agit toute cette semaine sur les nouveaux chemins. Et aujourd'hui c'est le philosophe André Hirt qui vient nous en parler. André Hirt qui est le co-auteur avec Philippe Choulet de l'idiot musical Glenn Gould, contrepoint existence, publié aux éditions Quimet. Une idée du Nord, disait Gould dans l'archive qu'on a entendu juste avant, André Hirt. Alors, vous disiez, il n'est pas du tout américain, et en même temps, son rêve du non-conformisme lui vient sans doute tout droit des textes d'Emerson et de Thoreau, hein, qui, au milieu du 19e siècle, ont lancé cet appel à l'indépendance intellectuelle américaine, justement, avec une sorte de promotion du non-conformisme. Aller quitter la ville, aller dans la nature pour essayer de ne pas faire comme tout le monde, et donc de renouer avec ce qu'ils appellent leur propre génie. Ça, c'est complètement gouldien.
Oui, alors ça, je crois que cette idée du Nord, c'est une notion extrêmement surdéterminée chez lui. Il y a ce que vous avez dit, il y a cette philosophie américaine que Gould a dû lire.
C'était un grand lecteur de Thoreau, je crois.
Voilà,
oui.
Voilà, qu'il a dû lire. Il y a cette passion tout à fait naturelle, repérée dès l'enfance pour ces paysages du Nord. Bon, c'est un vrai Canadien, on peut le dire comme ça. Et puis, il y a une intellectualisation aussi de l'idée du Nord, qui est le Nord, qui est aussi c'est une idée directrice. L'idée du Nord, quasiment une idée directrice au sens de Kant, c'est-à-dire ce vers quoi on se dirige, qui est une espèce de forme aussi d'absolu. C'est une idée aussi, l'idée du Nord, qui s'oppose... aux passions plus philosophiques pour le Sud, depuis qu'on a lu Nietzsche, on est plutôt dans le Sud. Mais là, chez Gould, le Nord, c'est aussi la clarté. Ce sont des ciels plus détachés, qui correspondent bien à sa musique, qui est très staccato, très détaché, il refuse le legato. La clarté des choses, le côté originel aussi des choses. Je crois qu'on pourrait utiliser beaucoup de plans d'analyse pour cette idée du Nord. Et puis, c'est le titre d'une grande émission de radio, qui est aussi qui fait partie d'une trilogie, qui s'appelle la trilogie de la solitude, que l'idée du Nord se combine aussi avec une longue réflexion sur le gris, sur le froid. Donc, il y a tout un monde gouldien qui est là présent, trilogie de la solitude, où il fait parler aussi des personnages, où il parle des Inuits, il y a tout un ensemble de personnages comme ça. Et l'idée du Nord, chez lui, c'était d'exemplifier de façon très originale, non conformiste, une manière d'être au monde, dont la musique qu'il joue est une autre manière d'exemplification. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire, dans une émission de radio, par exemple, la polyphonie des gens qui parlent, qui fait penser, par exemple, au Capriccio de Richard Strauss, progressivement, les gens ont une conversation comme ça, et puis ça devient complètement musical. Il essaie de montrer sur le plan humain, sur le plan comme ça, une espèce de reportage comme ça, radiophonique, l'équivalent de ce qu'il essaye de montrer dans la musique, une espèce de polyphonie. Parce qu'après tout, La musique de Gould, c'est une musique de solitaire essentiellement. C'est un solitaire qui joue en soliste, mais elle est toujours orchestrale. C'est toujours quelque chose qui est polyphonique. C'est quelqu'un qui cherche la communication, un peu comme c'est quelqu'un qui aime parler, qui aime téléphoner, qui aime être en contact avec les autres, mais jamais directement.
C'est pour ça qu'il fait de la radio d'ailleurs.
Voilà, parce que l'immédiateté pour lui est mortifère, enfin est catastrophique. Et donc il passe par des médiations, d'orchestration, d'organisation. Voilà, ça. Et l'idée du Nord, c'est une des manières pour lui d'étiqueter ou de penser, d'élaborer. Je crois d'écrire, parce que c'est un écrivain.
Mais voilà, vous parlez de la musique de Gould, et pourtant, oui, il ne fait que jouer des musiques qui le précèdent, qui ont été créées par d'autres, oui, personnes. Où se situe la musique de Gould?
Mais la musique de Gould, c'est la façon dont la musique le transforme lui-même. C'est-à-dire la façon dont la musique le fait exister. C'est le progrès dans l'enregistrement, c'est l'accumulation des enregistrements. Voilà, c'est le fait aussi que la musique, ce n'est pas le piano, c'est pas le piano qui fait la musique. La musique, c'est une pensée. La musique, c'est une existence. D'où son refus du concert comme pianisme, c'est-à-dire lorsque c'est le piano qui est démonstratif. Gould ne veut absolument rien démontrer. C'est quelqu'un qui montre dans sa vie comment on peut exister, comment on peut exister pacifiquement, comment on peut être un homme bien au sens moral du terme. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans la démonstration, dans la volonté, de puissance. C'est quelqu'un qui cherche des espaces, qui cherche des représentations, qui cherche des organisations, qui cherche des lieux, le Nord, le studio, la voiture, écouter de la musique dans la voiture, rouler toute la nuit en voiture. Voilà, par exemple, ça c'est une expérience gouldienne.
Glenn était le type même de l'athlète. Alors que tout le monde pense aujourd'hui encore qu'il a été de constitution extrêmement chétive. Quand il jouait affaissé devant le Steinway, il avait l'air d'un infirme. Le monde musical tout entier le connaît sous cet aspect. Or, le monde musical tout entier a succombé à une illusion totale, pensais-je. Où que Glenn apparaisse, c'est l'image de l'infirme et du gringalet qui nous est montrée. La fragilité de l'esprit pur, auquel on n'accorde que son infirmité et ce qui va de pair avec cette infirmité, à savoir l'hypersensibilité, alors qu'en fait c'était le type même de l'athlète. Il était beaucoup plus fort que Wertheimer et moi réunis. Et cela, nous l'avions remarqué aussitôt. Le jour où il s'était employé à abattre sous sa fenêtre, de ses propres mains, un frêne qui, selon sa propre expression, le gênait pour jouer au piano. Tout seul, il scia le frêne d'au moins 50 cm de diamètre, nous tint tout bonnement à l'écart du frêne, débita d'ailleurs le frêne séance tenante et empila les bûches contre le mur de la maison. L'Américain typique, avais-je pensé alors, pensais-je. À peine Glenn eut-il coupé le frêne déclaré gênant qui lui vint à l'esprit, qu'il aurait pu tout simplement fermer les rideaux de sa chambre et baisser les volets roulants. « J'aurais pu éviter d'abattre ce frêne, dit-il, pensais-je. Nous abattons souvent de ces frênes, bon nombre de ces frênes de l'esprit, dit-il, alors qu'un misérable artifice aurait suffi à nous épargner cette peine, dit-il, pensais-je. Il débita le frêne abattu sans notre aide, pensais-je, établit l'ordre total qui lui ressemblait là où s'était dressé le frêne. Quand quelque chose nous gêne, nous devons l'écarter, avait dit Glenn, même si ce n'est qu'un frêne.
Cet épisode raconté par Thomas Bernard dans Le Naufragé rappelle, donc on voit, décrit Glenn Gould arraché, enfin s'il y a un frêne de ses propres mains, rappelle un épisode qu'on trouve dans Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant, où Kant demande à son voisin d'abattre un arbre parce que cet arbre lui cache la vue qu'il avait sur le pigeonnier. Il a besoin de voir ce pigeonnier pour pouvoir écrire. Et c'est vrai que là, finalement, on a deux attitudes qui semblent toutes les deux être une espèce de monomaniaque et un peu obsessionnelle, voire complètement folle. Or, le roman, justement, de Bernard, Le Naufragé, apporte aussi une autre dimension sur ce personnage, qui est déjà qualifié d'athlète, dit-il, alors que tout le monde le considère comme étant un peu chétif, André Hirt.
Oui, oui, mais je crois que dans ce texte aussi compliqué, Le Naufragé d'Unterguer de Thomas Bernhardt, Gould a le statut de perfection. Hein. Il est celui qui empêche tous les autres musiciens de faire carrière. L'un se suicide, l'autre disparaît. Bon, et je crois que ce que Thomas Bernhardt dit dans ce texte, et qui est exact, tout à fait exact, c'est pas le goût, mais le sens de l'ordre. Mm-hmm. C'est-à-dire l'ordre au sens métaphysique du mot, hein, l'ordre de Bach, hein, l'ordre de la musique, l'ordre dont on évoquait un peu tout à l'heure en parlant de ce qu'il y avait derrière l'écoute musicale qui apparaît contingente dans un concert, mais qui traduit une forme de nécessité. Après tout, un concert est réussi, un disque est réussi, lorsque, au-delà de l'événementialité temporelle, quelque chose d'intemporel, enfin, se donne. Il y a chez Gould quelque chose qui cherche à se soustraire au temps. La musique cherche à se soustraire au temps. Elle est spatiale, elle est espace. Wagner dira des choses comme ça dans Parsifal. Et je crois que la véritable surprise qui arrive lorsqu'on écoute Gould, c'est cette découverte de l'ordre. Et que là, Glenn Gould, c'est quelqu'un qui a mis de l'ordre dans sa vie. C'est quelqu'un qui a une ligne éthique.
Mais comment parler d'ordre en musique, hormis l'ordre chronologique ou la structure de la musique chez Bach, par exemple?
Ouais. Ben, c'est lorsque un musicien pourrait vous expliquer ça. C'est lorsque la matrice, par exemple, d'une œuvre, ce qui peut être une cellule musicale, on la voit dans toute l'œuvre. C'est-à-dire, c'est celle-là qu'on arrive à extraire de la structure musicale et qu'on met en évidence dans le jeu. Alors soit au piano à la main gauche, à la main droite, ou alors soit dans l'orchestre, c'est beaucoup plus difficile, lorsqu'on la fait se manifester. C'est-à-dire lorsque quelque chose comme la teneur de vérité, ou le cœur même de l'œuvre, devient manifeste dans l'œuvre. Et je crois qu'un grand musicien, qui accumule quand même les exécutions de la même œuvre, c'est ça qu'il cherche. Il cherche quelque chose qui est de l'ordre d'une structure métaphysique de l'œuvre, comme on peut en parler avec Platon, avec Simone Weil, hein, je ne sais pas, quelque chose qui est de l'ordre.
Mais c'est très difficile d'en parler. Là, oui, je m'adresse aux philosophes que vous êtes justement.
Et là, c'est la question mystique, enfin la question de l'extase, et ou la question de l'idée, hein, ce que Gould appelle l'idée, et qui était aussi déjà le terme qu'il avait rencontré chez Arthur Schnabel. Par lequel Schnabel disait, voilà, être musicien, c'est travailler sur cette idée d'une musique.
Une idée, et pourtant, il y a un rapport au corps qui est très important chez Gould.
Oui,
la façon qu'il a de jouer sur une chaise très basse, les jambes croisées, de chantonner, il y a une forme d'incorporation, d'incarnation de cette idée constante.
Mais le corps reste contingent. Il participe, il est dans cette énergie, mais la corporéité reste pour Gould, alors là, pour des raisons qui lui sont propres, contingentes. C'est-à-dire que le corps n'est pas l'objectif, l'extase purement physique n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est une pensée, la construction d'une pensée et une existence, les deux liés.
Oui, mais une existence, justement, implique le corps à nouveau. Le plaisir n'est pas simplement intellectuel, le plaisir de l'écoute de la musique. La musique s'adresse aussi au corps. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas simplement le même plaisir qu'on peut avoir à lire une phrase particulièrement bien écrite. Et encore, là aussi, c'est qu'il y a pas, le plaisir intellectuel n'est jamais complètement désincarné.
Oui. Mais chez Gould, j'en suis quasiment persuadé. Ce qui n'est pas arrivé à trouver dans l'existence, parce que cette accumulation de médicaments, cette solitude, dont il a dû souffrir d'une certaine manière, mais il l'a trouvé dans la musique. Et on est fait comme ça. Chacun trouve avec ses moyens. C'est ça la technique. C'est ça le bricolage. C'est ça qui donne aussi, avec son moyen, à lui, à tous les auditeurs, c'est-à-dire le moyen de régler la musique, de trafiquer un peu l'enregistrement, de trouver son propre équilibre ou son propre ordre à travers la musique. Parce que la musique est à la fois de l'art chez lui et de la technique. C'est une thérapeutique, c'est quelque chose qui organise l'existence et qui est capable de la modifier et qui est capable aussi de la remettre sur ses pattes.
Et il veut non seulement modifier la sienne, mais celle des autres. Sinon, il n'enregistrerait pas autant.
Oui,
et il ne
parce que
pas
c'est un généreux. Parce que c'est un très grand généreux. C'est quelqu'un qui fait la charité aussi. C'est quelqu'un qui... Oui, c'est le contre. C'est un solitaire et ce n'est pas un misanthrope. Pas du tout. Thank you.
Un grand merci à vous, André Hirt.
Merci à vous.
D'être venu nous parler de Gould aujourd'hui, de Glenn Gould, auquel vous avez consacré un ouvrage avec Philippe Choulet, L'idiot musical, Glenn Gould, de Contrepoint Existence aux éditions Quimet. On vous doit également un ouvrage tout récemment sorti, paru chez aux éditions Quimet toujours, Staccato, musique, existence et philosophie. C'est avec la partita numéro 4 de Bach que nous nous quittons. Je vois déjà ceux d'entre vous qui nous reprocheraient de réduire Gould à Bach. Eh bien, demain, il n'en sera absolument pas question. Soyez rassurés, demain, ce sera Bruno Mont-Saint-Jean qui viendra vous parler de Glenn Gould. Nous avons oublié un terme, disiez-vous, André Hirt.
Oui, un mot mozartien, c'est Heiterkeit, la sérénité. C'est-à-dire qu'il est à la fois de la sérénité et de la joie. Ça, c'est le grand qualificatif de Gould. C'est pas du tout un triste.
Merci beaucoup pour cette précision, cette rectification, cet apport qui, effectivement, est essentiel. Gould est essentiel. Gould n'est pas triste. Il est joyeux. Il est dans l'extase. En tout cas, il la recherche. Et c'est celle à laquelle nous conduit Géraldine Mosna-Savoie tous les jours. Mais oui, je vous compare à Glenn Gould. Ben, la barre est haute. La pression est là. Géraldine, je sais que vous saurez relever le défi. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'art aussi, mais non pas de musique, mais de peinture, à l'occasion de la parution d'Histoire de médium, philosophie par la peinture de Patrick Vaudet aux éditions Vrin.
Je n'ai envie de travailler que lorsque quelque chose me touche d'une façon ou de l'autre. Et alors je veux chercher, trouver une façon d'exprimer cette idée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu depuis longtemps et c'est tout, c'est ce que je peux dire. Mais je n'ai pas fait de vœu du tout de ne pas faire de peinture.
Faut-il d'abord avoir une idée pour ensuite pouvoir créer? Eh bien, en 1966, Marcel Duchamp, comme on l'a entendu, n'avait plus d'idée, du moins plus aucune, qui ne le touche, qui ne le guide pour se remettre à la peinture, en tout cas à ce moment-là. En parlant de l'idée comme ce qui doit forcément précéder la mise en œuvre, Marcel Duchamp met le doigt sur cet éternel débat dans la création entre les idées et les arts, et plus largement, il touche à ce qui fera l'objet du débat entre la philosophie et l'art, la première censée apporter l'appareil conceptuel à la seconde qui n'est que matière. Il est pourtant plus intéressant de décaler cette opposition, et non pas en dehors de celle-ci, mais au sein de celle-ci, de trouver en fait un juste milieu. Quelques années auparavant, Duchamp, justement, avait tenu une conférence sur l'acte créateur et il avait alors fait le portrait de l'artiste en médium. Milieu, médiation, moyen terme ou encore traduction, Patrick Vaudet, dans Histoire de médium, rappelle ainsi les quatre sens de ce qu'est un médium. Quatre sens que Hegel avait déjà dégagés à propos de la peinture dans son système des beaux-arts. Quatre sens dans lesquels n'apparaît pas celui de média, en tout cas. Car si la peinture est bien un moyen, elle ne l'est jamais en vue d'une fin, en vue de dire quelque chose d'extérieur à elle-même. Seule l'intensité du geste, des couleurs et des formes est présente. Seule sa matière s'anime sous nos yeux. Seule la matière se travaille et prend alors forme au gré des accidents, du hasard, de la résistance qu'elle oppose aux artistes et à ses spectateurs. La matière s'exprime par elle-même comme milieu, en fait, dans lequel on vit, on se plaît, on contemple, on habite. Et il y a là de quoi déculpabiliser notre regard posé sur les tableaux. Nous ne serons jamais en état d'incompréhension, mais il y a là aussi de quoi poser sur la peinture un regard plus juste.
Passionnant. Il faut qu'on parle plus de peinture, d'ailleurs, au Nouveau Chemin. Ce sera une résolution pour 2017.
Donc, Patrick Vaudet, c'est un essai de Patrick Vaudet qui s'appelle Histoire de médium, philosophie par la peinture, et c'est aux éditions Vrin.
Merci Géraldine, et merci à toute l'équipe des Nouveaux Chemins. Olivier Martineau à la lecture des textes cette semaine. Olivier Bétard à la réalisation, Pierre Faucillon à la prise de son, Xavier Combe à l'interprétation, c'est la voix française de Glenn Gould pour vous cette semaine, et puis aussi évidemment Antoine Ravon, Ariane Mintz, Pierre Brossard, Marianne Chassor et Tristan Grenassia qui avait travaillé sur cette émission il y a un petit bout de temps déjà. On se retrouve demain donc pour la suite et fin de cette semaine consacrée à Glenn Gould, et ce sera Bruno Mont-Saint-Jean qui a beaucoup connu et travaillé avec Glenn Gould qui viendra vous parler de Gould sans Bach. Donc d'ici là, pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour, et puis vous pourrez la réécouter en ligne ou en la téléchargeant, la podcastant, afin de l'écouter à l'heure de votre choix. Sur France Culture à 10h51, et bien dans 9 minutes, vous retrouverez Florian Delorme pour Culture Monde.